Bonjour, bienvenue dans le troisième épisode du podcast d'Amarante International, les rencontres de l'Indo-Pacifique. Dans le premier épisode, avec Jean-Marc Balancy, nous avions vu quels sont les fondamentaux nécessaires à la compréhension générale de la région. Dans le deuxième épisode, avec Emmanuel Véron, nous avions interrogé les problématiques de l'Asie de l'Est en général et de la Chine en particulier. Nous allons aujourd'hui aborder les thématiques inhérentes à la région du Golfe, qui fait figure de sas occidental de la région Indo-Pacifique, avec Adlène Mohamedi. Adlène Mohamedi est docteur en géopolitique de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sa thèse portait sur la politique arabe de la Russie. Il est actuellement le directeur scientifique du Centre de recherche stratégique AESMA. Il enseigne en outre la géopolitique à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Dans le cadre de ses travaux chez AESMA, il a notamment dirigé des études sur le conflit yéménite et pilote actuellement l'Observatoire du Golfe Arabo-Persique. Il est également l'auteur de nombreuses publications sur la région Afrique du Nord-Moyen-Orient et vient de publier un article sur l'influence américaine dans le Golfe, dans la revue Moyen-Orient, qui sortira au mois de janvier. Bonjour Adlène.
Bonjour Vincent.
Alors Adlène, pourriez-vous dans un premier temps nous rappeler les principales problématiques politiques et géopolitiques à prendre en compte dans l'étude de la région du Golfe et les mutations qu'elle a connues depuis la seconde moitié du XXe siècle?
Dans un premier temps, j'ai envie de commencer par définir les termes, qui est un peu une sorte d'étape incontournable, et de les définir très rapidement, puisque quand on parle en général du golfe persique, ou du golfe arabique, ou du golfe arabo-persique, puisqu'il y a souvent une concurrence culturelle s'agissant de ces termes, on a tendance à parler, à inclure l'Iran. Hein, ce que parfois on a tendance à oublier, même si aujourd'hui il ne sera pas principalement question de l'Iran. Quand on parle de la péninsule arabique, en revanche, on va plutôt parler des pays du Conseil de coopération du Golfe, dont on va aussi parler, en y ajoutant le Yémen. Donc quand on parle du Golfe Persique, du Golfe Arabo-Persique, on parle globalement des pays du Conseil de coopération du Golfe, auxquels il faut ajouter l'Iran, c'est-à-dire qui est de l'autre côté du détroit d'Hormuz. Alors, pour ce qui est des problématiques et des mutations, on est quand même obligé de faire un peu d'histoire. Alors bon, c'est une région qui a connu un certain nombre d'influences étrangères. Influence russe et britannique côté iranien, influence britannique et ottomane côté arabe. Et cette influence a été notamment mobilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Rappelons que côté arabe, donc dans la péninsule arabique, les temporalités, les modalités des créations des différents États divergent. Le royaume saoudien tel qu'on le connaît aujourd'hui est né en 1932. Un pays qu'au moment a connu, on va dire, des statuts différents puisqu'il est passé de l'imamat au sultanat après un coup d'État en 1970. Et on a des pays comme le Qatar et les Émirats arabes unis qui ne sont indépendants que depuis 1971. Pour ce qui est finalement du gros morceau hein, qui nous intéresse, à savoir l'Arabie Saoudite, on peut dire rapidement que le royaume saoudien, c'est-à-dire un royaume dirigé par une famille, la famille Saoud, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est né en 1932 à l'issue de rapports de force avec une autre grande famille de la région, la famille Hachémite, qui détenait ce qu'on appelait le shérifat de la Mecque et qui ne dirige plus aujourd'hui qu'un seul pays dans le monde arabe, à savoir la Jordanie. Alors, sur le plan historique, bon, on est obligé de rappeler l'histoire de l'influence américaine, notamment à partir des années 30, et il faut rappeler que deux choses qui me paraissent importantes, c'est que le royaume saoudien va largement tirer profit des rivalités américano-britanniques dans la région, premier point, et deuxième point, que les Américains vont s'intéresser au royaume saoudien dès les années 30 et dès l'indépendance. On a affaire par exemple à des concessions pétrolières qui vont être cédées à des compagnies américaines dès 1933. Donc c'est très tôt après l'indépendance, après la naissance du royaume saoudien. Et de 1973 à 1980, là je fais un saut dans le temps, la société pétrolière qui résulte de cette coopération saoudo-américaine, à savoir l'Aramco, va être peu à peu prise en main par la monarchie et s'émanciper un petit peu de la tutelle américaine et sera, bon, grosso modo, nationalisée à partir de 1980, même si l'Arabie saoudite demeurera un important fournisseur de pétrole pour les Américains. Dès la Seconde Guerre mondiale, on voit bien l'intérêt stratégique de cette région, puisqu'en 1942, on a ce qu'on appelle le corridor persan, qui servira aux Américains de couloir destiné à alimenter l'Union soviétique en armes. Hein. Il faut rappeler que les deux pays étaient alliés. Et on a bien sûr cette date que tout le monde a tendance à retenir, à savoir celle du 14 février 1945, la fameuse rencontre du Quincy, qui est un navire de guerre américain, qui est devenu avec le temps une espèce de pacte. Quand il s'agit du Moyen-Orient, on aime bien se focaliser sur des pactes plus ou moins secrets. En réalité, la rencontre du Quincy, qu'on a souvent décrit comme la rencontre où les Américains et les Saoudiens vont échanger pétrole contre sécurité, c'est plus un mythe qu'une réalité, dans la mesure où la question pétrolière, comme je l'ai rappelé, et comme l'a rappelé l'historien Henri Laurent, s'est réglée depuis les années 30, et qu'en réalité, la principale question qui va être abordée sur ce navire, le Quincy, le 14 février 1945, c'est la question palestinienne. Et en réalité, cette question palestinienne va être au cœur des aspérités dans les relations saoudo-américaines, puisqu'on a souvent tendance à penser que les relations sont lisses, en réalité pas du tout, puisque la guerre du Kippour va être une sorte de défi dans la relation saoudo-américaine, puisque les Américains vont soutenir bien sûr les Israéliens, et l'OPEP, fondée en 1960, où l'Arabie Saoudite joue un rôle important, va répliquer et on va connaître ce gros choc pétrolier dont on a connu des conséquences, y compris en France. Pourquoi je dis que l'OPEP va s'impliquer ? Parce qu'il y aura évidemment une espèce d'embargo sur les soutiens d'Israël et cela va concerner jusqu'à un certain point les États-Unis. L'année capitale dans la relation saoudo-américaine, l'une des années capitales, l'un des tournants historiques dans la relation saoudo-américaine, ça va être l'année 79. Parce que 1979, c'est à la fois l'année de la naissance de la République islamique d'Iran, qui va être un défi majeur pour l'Arabie saoudite, au-delà évidemment de la question religieuse, le chiisme versus le sunnisme. Le caractère aussi républicain de l'Iran va être considéré comme un défi et un contre-modèle pour les Saoudiens. Et à la toute fin 79, à la fin de décembre 79, et jusqu'à la fin des années 80, on va avoir la guerre d'Afghanistan. Et là, évidemment, on va avoir une convergence parfaite entre les Saoudiens et les Américains, puisque l'ennemi commun, ce sera l'armée rouge, ce sera l'Union soviétique, et avec l'assentiment des Américains, les Saoudiens vont soutenir un djihad transnational destiné à fragiliser l'Union soviétique et l'armée rouge. Cette coopération sera aussi d'ordre économique dans les années 80, ou plutôt cette guerre anti-soviétique se poursuivra dans les années 80, puisqu'à ce moment-là, l'OPEP va agir différemment que ce que j'ai évoqué tout à l'heure après la guerre du Kippour. On va aller vers une surproduction pour baisser les prix du pétrole et fragiliser l'économie soviétique. Alors, l'autre tournant important, ça va être la guerre Iran-Irak, qui est l'une des guerres les plus meurtrières du XXe siècle, du début des années 80 à la fin des années 80. Et les deux événements combinés, c'est-à-dire l'année évoquée précédemment, à savoir la naissance de la République islamique d'Iran et la guerre Iran-Irak, vont encourager les pays du Golfe, certains d'entre eux, à créer le Conseil de coopération du Golfe en 1981, dont l'objectif est de se protéger de l'Iran, de la République islamique d'Iran, et de se protéger des éventuelles conséquences de la guerre Iran-Irak, bien sûr, dans la région. Alors, l'autre moment fort sur lequel je ne vais pas m'attarder, l'autre moment fort de la convergence saoudo-américaine, c'est la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, c'est un moment fort parce que on a l'Irak de Saddam Hussein qui va attaquer un pays membre du Conseil de coopération du Golfe, à savoir le Koweït et les États-Unis et leurs alliés, là, avec l'assentiment de l'Union soviétique finissante, l'Union soviétique moribonde, vont soutenir le Koweït, et la convergence, là encore, saoudo-américaine, sera au rendez-vous. Puis viennent les années 2000, où là, ce n'est plus le conflit israélo-arabe qui sera au cœur des différends entre les deux pays, entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, mais autre chose. On peut penser évidemment au 11 septembre 2001, où on a quand même une surreprésentation de terroristes saoudiens, ce qu'en général, les femmes politiques et les hommes politiques américains ne manquent pas de rappeler, mais surtout en campagne, parce que quand ils arrivent au pouvoir ensuite, ils ont tendance à l'oublier. Il y a évidemment la guerre d'Irak de 2003, où là on a clairement un désaccord entre les deux pays, puisque les Saoudiens ne soutiennent pas contrairement à la première guerre du Golfe, ne soutiennent pas l'intervention américaine. Et on a, plus récemment, le tournant qu'aura constitué l'arrivée au pouvoir d'Obama, puisque Obama va essayer d'obtenir une désescalade avec l'Iran, notamment avec cet accord sur le nucléaire qu'il va obtenir en 2015. Mais ce qu'il obtient de ce côté, il va le perdre de l'autre, puisqu'on va avoir des relations plus tendues avec les Saoudiens, qui voient d'un mauvais œil, bien sûr, l'accord entre les Américains, entre autres, puisqu'il ne s'agit pas que des Américains, l'accord sur le nucléaire iranien plus généralement. Donc au-delà de cet accord important de 2015, que Donald Trump, qui va faire le choix d'une politique faite de partis pris beaucoup plus tranchants, des partis pris anti-iraniens, anti-palestiniens, au-delà de cet accord que Donald Trump va remettre en cause, bon ben le printemps arabe et ses suites seront un tournant majeur de ces dernières années. Bon, avant de l'évoquer, bon, j'ai évoqué l'histoire, je vais évoquer rapidement la géographie, parce que bon, quand on parle de cette région, on est obligé d'évoquer le détroit d'Ormuz, qui est un point de passage central. Je rappelle que le détroit d'Ormuz, c'est détroit qui sépare un pays du CCG, à savoir le Sultanat d'Oman et la République islamique d'Iran. Entre 2016 et 2018 encore, en moyenne, 21% de la consommation mondiale de pétrole transitait par là, et un quart du gaz naturel liquéfié, du GNL, dont l'un des gros exportateurs est le Qatar, transporté par méthanier, y a transité. Donc, pour ne prendre que ces deux exemples. Alors, il est souvent question d'un risque de blocage de ce détroit, par les Iraniens, par exemple, mais ça ne s'est jamais fait, et a priori, personne n'a vraiment intérêt à le voir fermé, et ajoutons, bon, je l'ai dit indirectement, que les eaux d'Ormuz sont juridiquement partagées entre le Sultanat d'Oman et la République islamique d'Iran, qui entretiennent des relations plutôt cordiales.
Merci beaucoup, Adlaine, pour cette mise en perspective. Vous avez bien planté le décor. Alors, on a l'impression que les acteurs majeurs du Conseil de coopération du Golfe, le CCG, à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar, ont su passer outre leurs divergences. Pouvez-vous revenir sur ces divergences et ce qui a véritablement changé récemment ?
Bon, d'abord, il faut rappeler que les hydrocarbures et les revenus issus des hydrocarbures, notamment avec la crise pétrolière de 1973 que j'ai évoquée tout à l'heure, ont peu à peu déplacé le centre de gravité du monde arabe, des grands pays à tendance plus ou moins révolutionnaire, à savoir l'Égypte, la Syrie ou l'Algérie qui prend son indépendance en 1962, vers le Golfe. Et ce sera très perceptible dans les années 80, notamment dans le cadre de la guerre d'Afghanistan, comme je l'ai rappelé, mais aussi sur un autre théâtre, à savoir le théâtre de la guerre du Liban, où un pays comme l'Arabie Saoudite va jouer un rôle de plus en plus important. Un auteur comme George Corm dira « Le pouvoir est passé, à ce moment-là, de la ville au désert. » La ville, c'est-à-dire les grandes capitales arabes, le Caire, Beyrouth, Damas, au désert, c'est-à-dire les pays du Golfe qui prennent de plus en plus d'importance. Au moment du printemps arabe, on a vu cette importance et les monarchies du Golfe vont se retrouver au cœur de dynamiques géopolitiques moyen-orientales qui les dépassent. À l'époque, je faisais partie de ceux qui avaient tendance à parler d'une opposition entre logique territoriale et logique réticulaire, c'est-à-dire ceux qui vont mettre l'accent sur les pouvoirs en place et la puissance dure, je pense notamment à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, et les logiques réticulaires, c'est-à-dire ceux qui vont mettre l'accent sur les réseaux de préférence favorables au changement, je pense notamment au Qatar, et sur la puissance douce. En réalité, on va plutôt avoir affaire à trois partis pris politiques et à la formation de trois axes, trois coalitions, qui vont s'exprimer sur des théâtres différents comme la Syrie, la Libye, l'Égypte. Ces trois axes, bon, je vais les énumérer très rapidement, c'est un axe qui, dès les printemps arabes, va manifester un penchant ostensiblement contre-révolutionnaire, mené par l'Arabie Saoudite et les Émirats. Un axe qui va s'auto-qualifier axe de la résistance. Bon, l'axe de la résistance, c'est résistance, entre guillemets, à l'égard de Washington et d'Israël. Il sera mené par Téhéran, par le pouvoir syrien et par des milices alliées, des acteurs politiques non étatiques, on va dire alliés de Téhéran, je pense au Hezbollah, et un axe qu'on pourrait qualifier d'islamo-réformateur, qui sera mené par le Qatar et par la Turquie, qui va soutenir franchement les printemps arabes, et il va les soutenir partout, avec, s'agissant du Qatar, un instrument de choix, à savoir la grande chaîne de télévision panarabe qui est Al Jazeera. Donc, en Syrie, pour reprendre ces pays du Golfe, principaux pays du Golfe que vous avez cités, les choses vont être simples, puisqu'ils seront à peu près d'accord. Pourquoi ils seront d'accord? C'est parce que les Saoudiens auront tendance à vouloir renverser le pouvoir syrien au nom de l'opposition à l'Iran, parce qu'ils ne veulent pas d'un allié de l'Iran dans la région, le pouvoir syrien étant à l'époque, étant toujours un allié de Téhéran. Et le Qatar, au même titre que la Turquie, parce qu'il y a un soutien aux frères musulmans et à une opposition, on va dire, d'obédience plutôt, entre guillemets, frériste. L'opposition se verra surtout en Égypte. Pourquoi en Égypte? Parce qu'en Égypte, on va avoir un soulèvement populaire. Ce soulèvement populaire va permettre l'élection démocratique d'un homme issu des frères musulmans, Mohamed Morsi. Cet homme-là sera soutenu par le Qatar. Et l'année suivante, en 2013, un coup d'État mené entre autres par l'actuel chef de l'État égyptien, le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, sera mené, renversera le président démocratiquement élu, et ce coup d'État sera soutenu par l'Arabie saoudite et par les Émirats arabes unis. Donc le parti pris contre-révolutionnaire ici prendra clairement forme, et l'opposition finalement entre l'axe Riyad Abu Dhabi et le Qatar se manifestera sur le théâtre égyptien. On le verra aussi en Libye d'ailleurs. En Libye, on va voir plus tard le Qatar, au même titre que la Turquie, soutenir le gouvernement internationalement reconnu, le gouvernement d'union nationale de Tripoli, et les Émirats arabes unis et dans une moindre mesure l'Arabie saoudite soutenir le maréchal Khalifa Haftar qui constitue en réalité une sorte de super milice qui va essayer de renverser le pouvoir à Tripoli et qui va échouer à l'été 2020. Donc ces axes-là vont s'affronter, les pays du Golfe vont chacun exprimer finalement des partis pris politiques divergents. On le retrouvera ces divergences aussi au Yémen, puisque à partir de 2014, dans la foulée du printemps yéménite, un groupe rebelle va prendre le pouvoir à Sanaa, au Yémen, les Houthis. Et en 2014, ils prennent la capitale de Sanaa. Et en 2015, le jeune Mohamed Ben Salman, dit MBS, qui va devenir à ce moment-là ministre de la Défense, qui est prince héritier, va décider de mener une guerre contre cette rébellion et va monter une grande coalition internationale pour essayer de renverser la rébellion Houthi à Sanaa. Bon, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver d'abord avec petit à petit l'éclatement de cette coalition. D'accord? Petit à petit, l'éclatement de la coalition, de plus en plus de pays vont se désintéresser de ce conflit. On va se retrouver avec des divergences internes à l'axe Riyad d'Abu Dhabi, puisque là où les Saoudiens vont essayer de faire la guerre jusqu'au bout, Houthi, les Émiratis vont s'intéresser à autre chose et vont soutenir par exemple de plus en plus les séparatistes de sudistes, entre autres. Et on va surtout se retrouver in fine avec une défaite saoudienne, c'est-à-dire le conflit yéménite va devenir un bourbier pour l'Arabie saoudite, et aujourd'hui il s'agit de vouloir en sortir. La principale divergence en réalité dont vous avez parlé entre les pays du Conseil de coopération du Golfe pourra être observée entre d'un côté les partisans de ce que j'ai appelé finalement le parti pris contre-révolutionnaire, à savoir l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et leur petit allié Bahreïn, qu'on a tendance à oublier. Et en face, le Qatar, qui sera esselé dans la région, mais pas à l'échelle, esselé à l'échelle du Conseil de coopération du Golfe, mais pas à l'échelle de la région, puisqu'il peut compter notamment sur le soutien de la Turquie. Et cette crise va éclater en 2017, puisqu'on va imposer au Qatar un blocus. On va énumérer des exigences, notamment par exemple, on va demander au Qatar de cesser tout lien avec l'Iran, on va demander au Qatar de renoncer à tout soutien aux frères musulmans, on va demander au Qatar de fermer Al Jazeera, on va demander des choses assez folles au Qatar, des conditions plus ou moins tenables, mais les puissances restent prudentes et le Qatar va tenir bon en réalité jusqu'au bout. Fin 2020, début 2021. On va avoir deux gros tournants plus ou moins concomitants. d'un côté les accords d'Abraham, c'est-à-dire ces accords de normalisation entre certains pays arabes et Israël, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, beaucoup plus loin, le Maroc, et on va avoir surtout la fin de la crise du Golfe, c'est-à-dire une réconciliation entre notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar à partir de janvier 2021. À partir de là, on peut dire que la logique contre-révolutionnaire semble triompher, mais le camp d'en face, c'est-à-dire le Qatar et la Turquie, tient aussi notamment en Libye, parce que effectivement, on a l'impression que le Qatar n'a pas réussi son coup en Égypte, puisque le coup d'État fonctionne. On a l'impression que le Qatar et la Turquie n'ont pas eu ce qu'ils voulaient en Syrie, certes, mais en Libye, ils tiennent le coup, puisqu'en Libye, le gouvernement Tripoli qu'ils soutenaient va tenir tête au maréchal Haftar, et ce sont plutôt les Émiratis qui vont se retrouver à soutenir un acteur, entre guillemets, rebelle, et le Qatar et la Turquie qui va soutenir le pouvoir, entre guillemets, légal, reconnu internationalement. Le problème, c'est que malgré cela, il faut bien admettre que les Turcs, que les Qataris vont eux-mêmes aussi changer de politique, ils vont renoncer, vont mettre de, si je puis me permettre, de l'eau dans leur vin, puisque ils vont renoncer à leur parti pris révolutionnaire, tout simplement parce qu'ils voient bien que la politique pro-révolutionnaire n'aura pas été fructueuse. Nulle part en réalité. En Syrie, l'intervention militaire russe va empêcher toute perspective de victoire des frères musulmans, et ce qui se passe en Égypte, on l'a rappelé, le camp contre-révolutionnaire est toujours là en place, incarné par le maréchal Al-Sissi. Donc en somme, désormais, on a les relations bilatérales entre États qui priment et qui triomphent, une logique, on va dire, un peu classique, statocentrée, qui finit par primer.
Merci pour ce point plus politique. Et justement, dans cette prise de conscience, dans cette évolution du rôle du CCG, comment vous décririez-vous l'impact qu'a la guerre en Ukraine sur cette région? Et comment peut-on qualifier l'attitude des pays qui composent le CCG à l'aune de ce conflit?
D'abord, il faut rappeler que pour ces pays du CCG, au même titre que pour d'autres pays arabes ou africains, il s'agit d'une guerre européenne, d'une guerre lointaine, d'une guerre qui ne les concerne pas. Dans le peu d'enquêtes d'opinion auxquelles j'ai eu accès, évidemment, la population interrogée va être globalement plutôt hostile à l'invasion russe. Par contre, de là à vouloir tourner le dos à la Russie, il n'en est pas question. Par ailleurs, la posture morale n'est pas très parlante, en réalité, pour ces pays-là, n'est pas très convaincante, et on aura finalement en très peu de temps affaire à des injonctions contradictoires. Puisque, ce qui va fonder les accords d'Abraham, c'est-à-dire, entre guillemets, la réelle politique au détriment des considérations morales et humanitaires, parce que finalement, c'est quand même ça qu'on a demandé à ces pays au moment des accords d'Abraham, fermez les yeux sur la colonisation, fermez les yeux sur le siège de Gaza et concentrez-vous sur les relations bilatérales avec Israël. En Russie, on leur demande, en Ukraine, on leur demande de faire exactement le contraire. On leur demande de tenir compte des considérations morales et humanitaires et on les invoque pour remettre en cause une relation bilatérale. Et ces injonctions contradictoires ne marchent pas. Ces pays-là ont eu exactement le même réflexe en réalité à l'égard de l'Ukraine. Il n'est pas question de tourner le dos à la Russie. Alors là, j'ai noté, on va dire, quatre points qui me semblent que je vais me contenter rapidement d'énumérer, quatre points qui me semblent importants à l'aune de la guerre en Ukraine. Premier point, ce qui a véritablement changé côté américain dans le face-à-face avec ces pays-là, et notamment les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, c'est le changement politique, l'alternance et l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. L'administration Biden séduit moins des pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats, qui entretenaient des relations privilégiées avec Trump. Il y avait une convergence sur l'Iran, par exemple, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Là où Joe Biden va tout de suite se montrer plutôt véhément sur des questions, on va dire, précises, notamment l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassinat imputé à des proches du prince héritier Mohammed Ben Salman. Et le discours, évidemment, de Joe Biden va être, évidemment, peu à peu, de moins en moins véhément, de plus en plus prudent, avec la guerre en Ukraine, bien sûr, et les problématiques énergétiques inhérentes à cette guerre. Deuxième point, c'est que il faut bien rappeler qu'on a peu de dans ces pays-là, on a peu de raisons de tourner le dos à la Russie. Pourquoi ? Parce que la Russie d'aujourd'hui, pour ces pays-là, ce n'est plus la Russie d'il y a 20 ans et encore moins la Russie des années 80 que j'ai évoqué tout à l'heure. Les relations avec la Russie ont changé. On a d'un côté, par exemple, une explosion des échanges commerciaux entre la Russie et les pays du CCG, dérisoire dans les années en 2000, et qui deviennent aujourd'hui comparables finalement aux relations commerciales entre la France et ces pays. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'un pays comme les Émirats, qui est un partenaire très proche de la France aujourd'hui, a des relations commerciales et diplomatiques et politiques presque plus fortes avec la Russie. Et ça, il faut le rappeler. Et ce raisonnement, d'ailleurs, est un raisonnement analogue aussi, peut être fait s'agissant de la Chine, puisqu'on se retrouve aujourd'hui avec 72 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les Émirats et la Chine en 2021, contre à peine 23 milliards entre les États-Unis et les Émirats arabes unis. Ça veut dire que pour ces pays-là, les États-Unis, ce n'est plus le centre du monde. Ça, c'est une chose qu'il faut garder en tête. Et plus généralement, on a tendance aussi à considérer la Russie comme un partenaire de choix au Moyen-Orient, notamment depuis la victoire russe en Syrie, ces victoires décisives, et comme une alternative aux États-Unis au même titre que la Chine. Les dernières décisions de l'OPEP, à savoir la baisse de la production pour augmenter les prix, c'est très clairement un oui à la Russie et un non à Washington. Et ça, c'est un point qui est assez important. Il s'agit de ne plus céder aux pressions américaines. En fait, il s'agit de ne plus rien donner gratuitement, tout simplement. Troisième point, c'est la volonté de maintenir une politique étrangère autonome, ce refus d'alignement, c'est-à-dire une certaine flexibilité des relations étrangères compartimentées. Une bonne relation avec Washington ne doit pas empêcher une bonne relation avec Pékin ou avec Moscou. Et c'est d'ailleurs le parti pris des Émirats, parce que quand on a commenté les accords d'Abraham, on s'est dit, bon, les Émirats se rapprochent des Israéliens contre l'Iran. Dans les faits, non. Les Émirats veulent garder de très bonnes relations avec les Iraniens, veulent avoir de bonnes relations avec les Israéliens, et maintenant, désormais d'ailleurs, veulent avoir aussi de bonnes relations avec l'adversaire d'hier, à savoir la Turquie. Donc on a envie, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'une volonté de privilégier les relations bilatérales, on a envie de compartimenter, de garder une certaine flexibilité. Et dernier point, c'est un rejet de toute politique de sanctions, en fait, tout simplement, parce que ces pays-là pourraient un jour eux-mêmes pâtir d'une politique de sanctions, et il s'agit de ne pas s'aligner sur une politique de sanctions visant aujourd'hui la Russie.
Premier 1. Sur le CCG, alors on a évoqué tout à l'heure particulièrement l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Qatar. On pourrait penser que c'est désormais un ensemble homogène. Néanmoins, est-ce que vous pourriez dire quelques mots des différents pays, autres que ces trois-là, qui composent le CCG?
Oui, effectivement. On a tendance à penser que ces pays-là sont des pays plutôt... qu'on a affaire à un ensemble homogène, arabe, et c'est pour ça qu'on parle souvent des pays du Golfe, les pétromonarchies, les monarchies du Golfe, etc. En réalité, on a affaire à un espace plutôt hétérogène sur le plan culturel et religieux, puisqu'on a des religions différentes qui sont représentées. On a d'un côté le sunnisme qui est représenté soit dans son expression, on va dire, la plus classique, la plus répandue, à savoir un sunnisme plutôt d'obédience dite maléquite qu'on retrouve, y compris en Afrique du Nord, qu'on va retrouver au Koweït ou qu'on va retrouver chez les dirigeants des Émirats. On va avoir aussi un sunnite plus rigoriste dans sa version wahhabite en Arabie Saoudite et au Qatar. Mais là aussi, il faut rappeler que les écoles religieuses ne veulent pas dire grand-chose. Ce qui compte, c'est le parti pris politique. Puisque bon, une même école ou une même secte d'un pays à l'autre n'aura pas la même expression. Et on l'a vu avec les récentes réformes voulues par MBS en Arabie Saoudite et avec la Coupe du Monde au Qatar. On n'est pas dans les fantasmes qu'on peut avoir sur le wahhabisme. On a une présence du chiisme aussi. On a un pays parmi tous ces pays du CCG qui est majoritairement chiite, qui est Bahreïn, et qui est d'ailleurs, qui se retrouve avec une population qui est majoritairement chiite, avec une famille régnante qui est sunnite, et c'est finalement cette famille régnante qui fait partie de ce camp contre-révolutionnaire que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire le plus proche de l'Arabie Saoudite et des Émirats. On a une troisième école qui n'est ni sunnite ni chiite, mais une troisième secte, on va dire, qui est plus singulière, qui est très minoritaire dans le monde musulman, qu'on retrouve dans le sultanat d'Oman, qui est l'ibadisme, et qu'on ne retrouve d'ailleurs ailleurs à peu près qu'en Algérie, par exemple, que dans certaines régions d'Algérie. On a aussi une forte minorité chiite, que j'ai pas évoquée, dans un pays comme le Koweït. Donc on a une certaine diversité religieuse, une certaine diversité culturelle. Sur le plan politique, bon, on a des régimes autoritaires, bon, on a une exception, je pense, qui est une exception, qui est une sorte de véritable, plus ou moins réelle monarchie, véritable monarchie constitutionnelle, qui est le Koweït, qui est finalement, de tous les pays du CCG, peut-être probablement le plus démocratique, où la liberté est la plus assurée, en tout cas. Et sur le plan géopolitique, bon, bah jusque-là, je l'ai dit en partie, on a vu trois tendances s'y exprimer. Il y en a deux que j'ai citées. La tendance plutôt contre-révolutionnaire avec les Émirats, l'Arabie Saoudite et Bahreïn. Une tendance plutôt islamo-réformatrice, mais finalement que le Qatar, dans la région, était le seul à mener, puisque ses principaux alliés, son principal allié sur cette question-là en particulier, il l'a cherché ailleurs, c'était la Turquie. Et on a des pays qu'on évoque moins, hein, parce qu'ils sont plus neutres, qui ont plutôt tendance à jouer un rôle de puissance médiatrice, qui refusent l'alignement systématique avec les Saoudiens, que sont le sultanat d'Oman et le Koweït. Même si, bon, alors là, on parle quand même de divergence, même si la guerre en Ukraine, encore une fois, a fait apparaître des réflexes communs, qui transcendent la région d'ailleurs, et ce réflexe commun, comme je l'ai dit, c'est le refus de s'aligner sur la politique américaine. Mais ce réflexe commun, on le retrouve aussi bien en Afrique du Nord qu'en Afrique subsaharienne, donc ce n'est pas propre à la région.
Bien, Adeline, avant de nous séparer et pour changer de registre, j'aimerais vous demander quelles sont vos suggestions culturelles qui permettraient aux auditeurs d'élargir encore leurs connaissances sur la région du Golfe. Alors, livres, chansons, films, vous avez carte blanche.
Je vais commencer par les films et je vais essayer un peu de donner des suggestions un peu les plus diverses possibles sur les films. Je vais citer des films de Saïd Roustaï. Je vais être assez peu original parce que c'est un cinéaste iranien qui est plutôt à la mode en ce moment, parce que ça permet de rappeler aussi le dynamisme du cinéma iranien. Alors Saïd Roustaï est le réalisateur de deux films récents que sont La loi de Téhéran et Leïla et ses frères, hein, où il y a question à la fois de rapports de force économique, de crise économique, de trafic de drogue, de patriarcat. On a des problématiques finalement qui se sont exprimées avec le soulèvement récent que le pays a connu. Donc c'est intéressant d'avoir des films, des fictions qui viennent nous plonger un petit peu dans le dynamisme et les ambiguïtés de la société iranienne. Pour ce qui est de la musique, là, je vais citer deux choix qui sont vraiment opposés, opposés en termes de contenu, on va dire, identitaire. D'un côté, je vais citer peut-être le chanteur le plus connu du Golfe ou de la péninsule arabique, qui est Aboubakr Salem, qui est un chanteur yéménite, qui est mort en 2017 et qui a été salué à peu près par tout le monde, y compris par les rebelles Houthis au Yémen, si je ne m'abuse. C'est un peu une sorte d'icône de la région. Il est yéménite, il a vécu aussi en Arabie Saoudite, je crois qu'il avait les deux nationalités. Et je vais citer une chanteuse beaucoup moins connue, qui est une chanteuse koweïtienne, Emma Shah. Pourquoi je la cite? Je la cite surtout parce qu'elle revendique une identité koweïtienne, pas du tout arabe, presque radicalement non-arabe, et qui a notamment chanté par exemple en amazigh, c'est-à-dire une langue berbère d'Afrique du Nord, et qui se distingue finalement de ce climat culturel, qui en général, malgré tout, hein, malgré les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt contre-révolutionnaire, mais qui est aussi marqué par le nationalisme arabe et par l'appartenance à l'identité arabe jusqu'à un certain point. Enfin, pour ce qui est des livres, je vais citer un livre seulement, je vais citer un livre de Pascal Ménoré, « Royaume d'asphalte », qui est une enquête qui s'intéresse au bas-fond de Riyad et au rodéo urbain, loin de l'image d'une société riche, lisse et exclusivement conservatrice.
Merci beaucoup, Adeline, pour ce très intéressant panorama de la région du Golfe qui s'inscrit complètement dans nos rencontres de l'Indo-Pacifique. Je vous dis quant à moi à très bientôt et je vous souhaite, au nom d'Amarante International, une bonne et heureuse année 2023. Au revoir.
Merci.